Maintenant, la loi sur les semences criminalise ce troc. Les fermiers peuvent être arrêtés pour avoir utilisé leurs propres graines. Les semences OGM, elles, ne peuvent pas être replantées. Elles font de nous des esclaves de nos propres fermes.
Pour Elisabeth Atieno-Opolo de Greenpeace Africa, c'est toute la souveraineté alimentaire du Kenya qui est en jeu aujourd'hui.
Les OGM placent le contrôle des semences entre les mains de quelques multinationales. La souveraineté alimentaire n'est véritablement atteinte que quand les agriculteurs contrôlent leurs semences. Il faut soutenir un système juste qui ne les rende pas dépendants d'intrants très chers.
D'après l'ONG Grain, 100% des brevets en biotechnologie dans le monde sont aujourd'hui détenus par une poignée de multinationales. Gaël Lalex, Nairobi, RFI.
À Nairobi au Kenya, où il est 7h42.
Afrique Matin sur RFI.
5h42 ici à Paris. À suivre dans Afrique Matin des reportages en Centrafrique et au Cameroun. En Centrafrique à Berberati, c'est à 500 km à l'ouest de Bangui. Reportage avec une initiative qui tente de faire revenir à l'école des élèves qui avaient décroché. Et au Cameroun, nous serons à Boya, la capitale de la région anglophone du sud-ouest. Les conséquences du conflit entre les groupes séparatistes et les autorités centrales se font vivre au quotidien. Mais tout de suite, c'est l'heure des sports. Les sports ce matin avec Antoine Grenier. Bonjour Antoine.
Bonjour Xavier.
Un journal des sports entre Coupe du Monde et Comité Olympique. En football, les éliminatoires du Mondial 2026 et le Mali qui se replace.
Les Aigles, large vainqueur des Comores 3-0 grâce à un doublé de Kamori Doumbia et qui relance ainsi le suspense dans la course à la qualification après 5 matchs. Première réussie, en tout cas, pour le nouveau sélectionneur malien, Tom Saintfit.
Aujourd'hui, je pense, après mes mi-temps, on a commencé, ok, les premières 20 minutes, mais après, on va perdre le contrôle de match. Comore a joué bien, créé des occasions, mais pas marqué. Et au deuxième mi-temps, on a pu prendre le contrôle. On a marqué 2 buts extra et je suis très, très, très fier comme entraîneur de mon équipe. J'ai une équipe de joueurs qui aiment de représenter leur pays. Ce sont des joueurs avec beaucoup de qualité qui jouent très bien ensemble et ça marche. Et ok, lundi, il y a le prochain match au Casablanca contre Centrafrique République. Aussi un match pas facile, mais on sait qu'est-ce qu'on veut. On veut les 3 points, on veut faire tout pour aller aux Coupes du Monde. Maintenant, on va préparer pour ça et ça va passer.
Et il y a eu un autre 3-0 dans cette 5e journée d'éliminatoire. Antoine, c'est celui infligé par le Gabon aux Seychelles.
Là aussi, un doublé, celui signé Denis Bouanga. Les Panthères provisoirement en tête de leur groupe F, dans lequel le Kenya et la Gambie se sont neutralisés 3-3. 9 matchs en tout se sont disputés hier, avec la première d'Aliou Cissé à la tête de la Libye pour un match nul 1-1 contre l'Angola. Les Libyens manquent ainsi l'occasion de passer devant le Cameroun dans le groupe D, contrairement au Cap-Vert, qui lui domine petitement l'île Maurice 1-0. À noter parmi les résultats de la journée, le nul 2-2 entre le Bénin et le Zimbabwe dans le groupe C.
Un groupe dans lequel le Rwanda peut distancer le Nigeria.
Seulement 5e avec 3 points, les Super Eagles se sont dos au mur au moment d'affronter les Amavubi à Kigali. Un moment compliqué, mais les Nigérians sauront inverser la tendance, promet leur capitaine William Trostekong.
C'est spécial pour moi quand je suis ici avec la sélection. Chaque fois que j'ai l'écussure du Nigeria sur la poitrine, je suis très heureux. On a beaucoup de travail devant nous, avec de la pression. Mais je dis à tout le monde que cette pression est un privilège. Tous les joueurs sont heureux de travailler avec le nouveau sélectionneur. Il nous donne beaucoup de nouvelles instructions. On doit juste être sûr que l'on comprend bien ce qu'il attend de nous pour le jour du match. On doit être concentré sur le Rwanda. On doit les respecter pour leur position au classement. Eux aussi ont un nouveau sélectionneur, donc ce sera un match intense. À nous d'être concentrés sur les aspects que l'on peut contrôler.
William Trostekong avec Bright Abiola, un vendredi qui comptera en tout 11 matchs, notamment celui de l'Algérie qui va défier le Botswana à 13h, temps universel. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, se déplace sur le terrain du Burundi. Également au programme, Burkina, Djibouti, RDC, Soudan du Sud, Ghana, Tchad ou encore Niger-Maroc.
Et on termine, Antoine, avec cette grande première pour le Comité international olympique, désormais dirigé par une femme.
La Zimbabwéenne Kirsty Coventry, élue ce jeudi à la tête de l'institution en remplacement de l'Allemand Thomas Bach. Et ce, dès le premier tour de scrutin, devant Juan Antonio Samaranch Jr., 28 voix, et Sébastien Coe, qui n'a recueilli que 8 suffrages.
Et on en reparle dans un peu plus de 5 minutes avec notre invité, professeur à l'université de Lausanne. Merci Antoine Grenier, c'était le journal des sports.
RFI, toute l'actualité.
Xavier Besson.
Reportage en Centrafrique dans une minute. Avant cela, l'essentiel de l'actualité internationale de ce vendredi est le gouvernement israélien qui approuve le limogeage de Ronen Bar, le chef de l'agence de sécurité intérieure Shin Bet, sur proposition de Benjamin Netanyahou. Dans une lettre rendue publique hier soir, Ronen Bar affirme que les motivations de son limogeage sont basées, je cite, sur l'intérêt personnel de Netanyahou et ont pour but d'empêcher les enquêtes sur les événements qui ont conduit au 7 octobre et sur d'autres graves affaires examinées actuellement par le Shin Bet. Un nouveau sommet des pays prêt à garantir un éventuel accord de paix en Ukraine aura lieu jeudi prochain à Paris, en présence de Volodymyr Zelensky, annonce d'Emmanuel Macron à l'issue d'une rencontre à Bruxelles entre les dirigeants des 27. Et puis aux États-Unis, Donald Trump demande à la Cour suprême de régler le problème, je cite, constitué selon lui par les juges fédéraux qui ont bloqué ses décisions depuis son retour à la Maison-Blanche. Message de Donald Trump qui intervient deux jours après un rare rappel à l'ordre du président de la Cour suprême. Et le reportage Afrique s'installe pour trois jours à Berberati en Centrafrique, à 500 km environ à l'ouest de Bangui. Berberati où l'Agence française de développement, le ministère de l'Éducation nationale et quatre ONG ont lancé cette semaine le projet Éducation pour tous pour tenter de faire revenir à l'école ceux qui en ont décroché. Reportage de Rolf-Steve Domielle.
10 heures à l'école d'application préfectorale de Berberati. Ce matin, les élèves du cours moyen 1 entendent un chant qui prône les vertus de la discipline scolaire. Un sourire sur le visage, Caleb, 12 ans, est heureux de revenir sur les bancs de l'école.
Je suis content de revenir à l'école après les multiples sensibilisations. J'avais arrêté pour me consacrer aux activités diamantifères. Je faisais ce travail pour soutenir ma famille. Maintenant, je dois me concentrer sur l'éducation.
La cour de l'école grouille de monde à 7 heures de la journée, contrairement à d'habitude où le silence règne à l'heure des cours. Comme Justine, plusieurs élèves font leur retour après avoir été convaincus du rôle crucial de l'école.
Prenons mon exemple. Auparavant, je ne voyais pas l'importance de l'école. Dans notre région, beaucoup de filles sont forcées de se consacrer aux activités ménagères et champêtres sans être payées. Nous avons été sensibilisés par les ONG sur l'importance de l'école comme un levier de développement pour notre localité.
5 sous-préfectures de la République centrafricaine sont concernées par le projet. Berberati Gamboula, Susuna Kombo, Dédé Mokouba et Carnot. Bruno Fouché est ambassadeur de France en Centrafrique.
Un programme important parce qu'il va toucher au global 21 500 élèves, 50 écoles, tout ceci dans 5 sous-préfectures et il va durer 2 ans puisqu'au total le coût du programme sera de 13 millions d'euros.
13 millions d'euros, soit plus de 8 milliards de francs CFA. Ce projet est mis en œuvre par les ONG Mercy Corps, Alima, FinChurch Aid et l'Organisation des femmes centrafricaines OFCA. Marcel Djangdamba est le représentant de l'ONG FinChurch Aid.
Les 4 ONG vont procéder à la construction des salles de classe, la réhabilitation également des salles de classe. On aura la construction des forages dans ces écoles. Nous allons également procéder à la construction des latrines, la construction et l'appui même des centres de santé en disponibilisant les pharmacies dans les écoles pour la prise en charge médicale à travers l'ONG Alima.
Le projet Éducation pour tous prendra également en compte la formation des enseignants et le développement des activités génératrices de revenus. Le ministère de l'Éducation salue le programme et demande sa pérennisation dans toutes les régions du pays. Rolf-Steve Domielle, de retour de Berberati, RFI.
Et demain, pour le deuxième épisode de cette série de 3 reportages à Berberati, notre correspondance est intéressée à une initiative citoyenne pour reconstruire les routes de la ville. Au Cameroun, il n'y a plus vraiment de front à proprement parler, mais il y a toujours un conflit dans les deux régions anglophones du pays, le nord-ouest et le sud-ouest, conflit entre les autorités centrales et des groupes séparatistes anglophones. Aujourd'hui, cela se traduit par des armes qui circulent, par une insécurité et par des habitants qui en subissent les conséquences, notamment économiques. Reportage à Boya, la capitale de la région du sud-ouest, Amélie Tulé et Alphonse Tébec.
Sur la route de Boya, en partant de Douala, une fois passé le fleuve Mungo, Salim constate à quel point le paysage a changé.
Avant la crise, juste quand on finissait de traverser les champs d'EVA, on avait des vastes étendues de plantations de bananes plantain, entretenues et exploitées par la CDC, Cambon Development Company. Mais depuis la crise, les séparatistes ont empêché les travailleurs d'aller au champ et puis tout est allé en ruine. C'est triste.
Une fois à Boya, aux heures de pointe, sur l'axe principal qui traverse la ville, les conducteurs de taxi ont dû s'habituer aux embouteillages. Avec l'afflux de déplacés, en moins de 3 ans, la population a doublé.
Nous trouvons difficile de circuler comme nous le faisions il y a 6 ou 7 ans. On se trouve confronté à des défis comme la surconsommation d'essence dans les embouteillages. C'est vraiment le premier problème. Le temps est perdu, c'est dur, il y a du travail, oui, mais ça va trop lentement à cause du monde. La population a augmenté, mais il n'y a pas assez de routes.
Une croissance rapide qui se fait sentir aussi dans le quotidien de cet agent immobilier.
Par exemple, les gens vivent dans les remotes areas in Kumba.
Les habitants des zones reculées de Kumba et de Bamenda viennent ici dans la zone verte de Boya. Ça pousse les propriétaires à augmenter les prix. La demande est supérieure à l'offre. Ça affecte les plus pauvres. Certains, pour s'en sortir, cotisent et se mettent à 5 dans une seule chambre.
En journée, Boya est une ville commerçante animée. Le soir, de nombreux bars sont ouverts. Malgré cet apparent retour à la normale, les Ghost Town Mondays, les lundis villes mortes, décrétés par les groupes armés, continuent d'être respectés par une partie des habitants.
Je fais des yaourts et je les vends. Le lundi, les affaires tournent au ralenti. Comme ces journées villes mortes, les gens restent chez eux, ils ne viennent pas au marché. Ça fait baisser mes revenus. Ça affecte mon foyer. Parfois, je n'ai plus d'argent pour le lendemain pour envoyer mon fils à l'école. Vous savez, quand c'est lundi villes mortes, chacun pense d'abord à sa survie. Alors tout le monde reste à l'intérieur.
En dehors des agglomérations, sur les axes qu'ils contrôlent, les groupes armés continuent de prélever sur les habitants des taxes, taxes sur les personnes, les marchandises, jusqu'au corps des défunts qu'il faut enterrer au village. Alphonse Tébec, Amélie Tulé, de retour de Boya, RFI.
À Boya, il est 5h53. Même heure à Lausanne, en Suisse, où le Comité international olympique est désormais présidé par une Africaine, la Zimbabwéenne Kirsty Coventry, élue hier dès le premier tour. L'ancienne nageuse, qui devient à la fois la première femme et la première représentante du continent, a occupé le poste. On en parle avec notre invité ce matin, Jean-Loup Chaplet, professeur émérite à l'Université de Lausanne, interrogé par Christophe Jousset.
Ça a été un peu une surprise, effectivement, parce qu'avec 7 candidats... Tout le monde attendait plusieurs tours de scrutin et elle a gagné au premier tour au-delà de la majorité absolue. C'est quand même un exploit et c'est une très bonne nouvelle, moi je trouve, pour le CIO et pour toutes sortes d'autres raisons.
On citait 2 favoris supposés, Juan Antonio Samaranch Jr. qui obtient 28 voix, Sébastien Coe se contente de 8 voix. La surprise est effectivement considérable.
Oui, Sébastien Coe était vu comme un favori, surtout par les médias, et les médias britanniques en particulier. Mais ceux qui votent, c'est les membres du CIO, et il y a la moitié de membres qui sont des femmes aussi. Et il y a une incontestable poussée des athlètes parmi les membres et je pense que l'âge a joué un rôle. Autrefois, pour être président du CIO, il fallait environ 60 ans. Aujourd'hui, Kirsty Coventry a 41 ans.
C'est la première fois que l'Afrique se retrouve à la tête du Comité international olympique. Est-ce que pour 2036, qui sont les prochains Jeux d'été à attribuer, ça peut être décisif pour l'Afrique ?
Ça peut l'être, mais c'est loin d'être certain parce qu'il n'y a pas pour l'instant de candidature africaine aux Jeux de 2036, mais il y a une rotation des continents après donc l'Europe avec Paris 2024, les États-Unis avec Los Angeles 2028, l'Australie avec Brisbane 2032. Ça peut être aussi le tour de l'Asie ou de l'Afrique.
Jean-Loup Chaplet de l'Université de Lausanne, entretien complet dans 3 quarts d'heure et sur RFI.fr. Et comme tous les vendredis, c'est le moment de retrouver la parlotte de Charlotte. Charlotte Ntamack, vous nous dites ce matin que les mots magiques appris dans l'enfance gardent leur magie même lorsqu'on devient grand.
Oui, tout petit, on apprend aux enfants à prononcer les mots magiques tels que « bonjour »,« au revoir »,« s'il vous plaît »,« merci », »,« pardon », »,« excusez-moi », »,« puis-je ». Ces mots ou phrases qui, une fois prononcés, produisent un effet inhabituel qui fait découvrir aux enfants le pouvoir de la gentillesse et des bonnes manières. Une fois grand, les mots magiques de l'enfance continuent d'opérer des miracles lorsqu'on sait s'en servir. « S'il te plaît, chérie, tu dis alors quoi sur ce que je t'ai demandé là ?»« Oui, je sais que tu n'as pas d'argent, mais mais je t'en prie, mon cœur, fais un effort. Pardon, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, mon petit bébé chéri. Merci, chéri, tu es un amour. Mouah. Pour qu'il soit encore plus magique, le dictionnaire de mots magiques s'enrichit chaque jour de nouveaux mots. Bonjour, grand boss, le boss des boss, le papa des employés. Eh, grand merci, grand boss. Je donne les mains, grand boss. Même le merci est petit, grand boss. Soyez béni, grand boss. Dieu vous rendra ça au centuple, grand boss. Mais il faut faire très attention avec les mots magiques, car un mot magique placé au mauvais endroit et au mauvais moment, et surtout sur le mauvais ton, peut se retourner contre celui qui l'emploie, un peu comme une formule magique mal utilisée. Ouais, pardon, quitte devant moi. Tu dis pardon à qui de quitter devant toi? Viens donc me faire quitter si tu es une femme. Le mot magique opère une autre magie lorsqu'il est prononcé sans qu'on ne sache le pourquoi de son usage. Qu'est-ce que j'apprends là? Hey Mako, je t'ai dit merci. J'ai encore fait quoi Mako? J'ai dit que tu as fait quoi? J'ai seulement dit que merci. Je dis, man, c'est à moi que tu parles comme ça. Je t'appelle, tu me dis pardon, excuse-moi. Bon, toi alors, excuse-toi. Puisqu'on le sait tous, un mot magique n'a de sens que dans le contexte dans lequel il s'emploie. Dans le glossaire des mots magiques du quartier, le mot magique peut avoir le sens contraire auquel il est employé. Grand frère, avec tout le respect que je te dois, quand tu entends ça dans mon quartier, cher grand frère, pardon pas, parce que le respect qu'on va te manquer après le « avec tout le respect que je te dois » ne dit pas son nom. Il y a alors des magiciens des mots qui savent que, quoi qu'ils fassent, ils sortiront toujours le mot magique. Je te demande pardon, s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'ai déjà demandé pardon, non? Je ne pardonne rien. C'est la quantième fois que tu demandes pardon pour faire la même chose le lendemain. Hein? Le tout aussi, c'est moi qui te demande pardon. Sors de ma vie. Comme quoi, à force d'user et abuser des mots magiques pour abuser des autres, les mots magiques finissent par perdre toute leur magie. À vendredi.
À vendredi prochain. Merci Charlotte Ntamak. Restez avec nous sur RFI dans une minute le journal. Passez une excellente matinée à l'écoute de la Radio Mondiale.
Pourquoi RFI dit ça ? Juliette Rangeval.
Peut-on rire de tout sur RFI ? Y a-t-il des tabous, des sujets dont on se moque dans certains pays et pas dans d'autres ? Nous posons la question à Maman qui raconte avec le sourire les petits et les grands travers du Gondwana tous les matins.
Écoutez Pourquoi RFI dit ça ? Avec Juliette Rangeval. Tout à l'heure à 11h10 TU sur RFI et en podcast sur RFI.fr. En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Avec Géraldine Faladé, journaliste pionnière ayant travaillé à l'Office de coopération radiophonique, l'ancêtre de RFI. Pour rendre hommage à cette princesse béninoise disparue récemment, En sol majeur rediffuse l'entretien qu'elle nous accordait en 2021 lorsque cette discrète publiait Turbulente.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Dimanche, à partir de 15h10 TU.
RFI.